une création.
Blast.
Anima, un podcast de Loulou Robert, réalisé par Vincent Deck. Une vache dans un champ, un oiseau sur une branche, une tranche de jambon, un chat sur le canapé. Les animaux. On les caresse, on les élève, les apprivoise. On les aime, on les tue, on les mange. On est tous liés d'une manière ou d'une autre à eux. Anima veut questionner notre rapport aux animaux, la manière dont on les traite, les considère, pour mieux nous comprendre nous-mêmes. Car après tout, nous sommes tous des animaux, des êtres vivants qui ont en commun l'anima, à savoir le principe vital, le souffle de la vie. Épisode 1, le chasseur.
Je vais vous montrer quelque chose de rare. Un chêne guitté. Un chêne porteur de gui. Le chêne des druides. Un arbre qui a plus de 100 ans et qui est porteur de gui, c'est quand même pas très courant. Il est par ici.
Je commence ma traversée avec un chasseur. Jacques m'a donné rendez-vous dans ses bois. Les feuilles craquent sous mes pas. Dans ma tête, je refais défiler mon fil Instagram. La nouvelle enquête sur un chien décapité, un dauphin torturé, un chien fait du patin à glace. Je m'arrête sur un chevreuil qui tente d'échapper à une horde de chasseurs. L'animal est acculé, il ne s'en sortira pas. Comment peut-on prendre du plaisir à tuer un animal? J'ai décidé d'aller à la rencontre d'un chasseur pour avoir la réponse à ma question, mais aussi pour éclairer des zones troubles de mon enfance, pour me confronter à celle que j'étais, à la petite fille de chasseur qui écoutait à table les explications de son grand-père sur la régulation des animaux sauvages, sans y croire, mais sans vraiment s'y intéresser, qui trouvait que la chasse était cruelle, mais qui ne posait pas de questions pour ne pas fâcher, pour pouvoir continuer à manger le ragoût de sanglier cuisiné par sa grand-mère, sans culpabilité, pour ne pas faire le lien avec la viande dans son assiette. 2 heures avec un chasseur, j'appréhende un peu. Je crains de croiser un animal, son regard, toujours les yeux. J'ai l'impression de les trahir. Peut-être qu'à la prochaine chasse, il sera tué. Cette pensée nous glace.
Je suis issu d'une famille de chasseurs, la 4e génération. Mais mon grand-père, mon père, nous chassions. La famille chassait, ma sœur, mes cousines, enfin ma cousine, enfin, on chassait tous. C'était une passion partagée de chasse de petits gibiers en plaine. En Touraine, il y avait des plaines magnifiques. J'ai des souvenirs de jeunesse avec mon grand-père, mon père, où il y avait beaucoup d'émotions à arrêter une bécasse. Parce que la bécasse est un oiseau de passage qui est assez... un très bel oiseau, qu'on peut encore chasser. Et j'ai quand même des moments de joie et d'émotion quand on a levé avec un chien d'arrêt une belle bécasse, qu'on a réussi à mettre dans des conditions de tir, parce qu'elles sont redoutables. C'est surprenant les ruses qu'elle peut mettre en place pour se sauver. Et quand vous avez la chance d'en prélever une pour la manger, là il y a un grand moment de... Alors est-ce que c'est de la satisfaction? Je ne sais pas. C'est toute une suite, c'est la quête, c'est le chien, c'est le travail du chien, c'est la vue de l'animal, la joie de pouvoir le tirer dans de bonnes conditions, et si elle est bien tuée, de ramasser cet oiseau mordoré qui a la couleur des feuilles mortes, qui est un magnifique oiseau. Alors vous me dites, mais pourquoi, s'il est si beau que ça, vous le tuez? Parce que c'est dans nos gènes, parce que on pratique cette chasse. Sur le plan photographique, on a peu de chance de la mettre dans l'objectif, puisqu'on a du mal à la mettre dans celle du fusil, donc bon. Et puis c'est un oiseau qui est particulièrement bon à manger, mais vous ne mangez pas de... vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Et c'est vraiment très très bon, très très bon. Quand c'est bien cuisiné, c'est extraordinaire.
Au téléphone, Jacques était mal à l'aise. Il craignait que je le juge, que je brosse le portrait de l'homme qui tue. C'est pourtant ce qu'il fait dans les bois. Jacques tue. Il a été rassuré d'apprendre que mon grand-père est chasseur, que mon grand-père tue lui aussi, que mon mari mange de la viande. Il m'a demandé ce que j'attendais de lui. J'attends de l'honnêteté. Je veux comprendre son rapport aux animaux. Est-ce qu'il les aime ? Qu'est-ce qu'il ressent au moment d'appuyer sur la gâchette ? Qu'est-ce que ça fait de tuer ? Traquer la bête dans les bois, lâcher les chiens, terroriser, tirer. J'ai entendu une fois le cri d'un sanglier agonisant. Ça m'a marqué. J'y pense, et plus j'y pense, plus la boule dans mon ventre grossit. Je marche à côté de Jacques. J'ai les mains qui tremblent.
En Touraine, il y avait des petits gibiers. Quand on dit petits gibiers, c'était les perdrix, faisans, lièvres, lapins. Mais ce petit gibier a disparu fin des années 70. En revanche, en forêt, le gibier s'est développé, le grand gibier s'est développé. Les ongulés, donc chevreuils et cervidés, et sangliers. On est un peu dépassé aujourd'hui par la prolifération des grands animaux. Il faut manifestement se préoccuper un petit peu plus de ces populations, parce que sinon c'est... Vous voyez là, ici, on est dans un sous-étage de chênaies avec du petit chêne, vous les voyez là, qui sont en train de se développer. S'il n'y a pas une régulation des grands animaux, tout ça c'est abruti, c'est tondu, et il n'y a pas de régénération. C'est l'équilibre, si vous voulez, qu'il faut avoir pour que la forêt continue à se développer. Si, quand vous faites une éclaircie, s'il y a une pression animale, chevreuil et cervidé en trop grand nombre, il vous coupe tout, c'est un désert et il n'y a plus de renouvellement. Donc c'est un équilibre qu'il faut trouver entre une population raisonnable d'animaux, et alors pas une élimination totale, mais une régulation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des plans de chasse qui sont en augmentation pour réguler ces grands animaux. Donc on a une mission de prélèvement, de régulation. Donc on nous attribue des animaux et même si parfois on voudrait en prélever moins, on a une obligation de chasse et de prélèvement d'animaux.
Jacques est passionné par la nature. Il connaît chacun de ses arbres. Il ne s'arrête pas de marcher, évite mon regard. J'écoute son discours, celui qui a accompagné ma jeunesse, mes étés chez mes grands-parents. Je suis avec un chasseur sensible. Pas la caricature de l'homme rougeau, au rire gras, à l'air bête et méchant. Jacques est délicat. Mais comment peut-on tuer un animal avec délicatesse ?
Comment ça se passe, vous chassez combien de fois par semaine, c'est
quoi ? Oh non, c'est pas par semaine. Nous, ici, c'est toutes les 3 semaines.
3 semaines, d'accord.
Oui, toutes les 3 semaines. Ça fait 7 à 8 chasses par an, 8 chasses.
Et ça se passe comment, en fait ? C'est quoi une chasse ?
Alors, il y a... Bon, généralement, c'est les chasses en forêt sont constituées d'unités qui sont liées à un propriétaire ou un ensemble de propriétaires qui... constitue un territoire de chasse pour lequel un plan de chasse est demandé. Et ce plan de chasse, donc, toujours par la fédération, vous attribue un certain nombre de bracelets, puisqu'il faut mettre un bracelet pour chaque animal prélevé. Un bracelet distinct pour le chevreuil, les cervidés, biches, fans. Et pour chaque animal attribué, vous payez une valeur par bracelet. Le sanglier en Indre-et-Loire, c'est 40 euros. Vous avez contribué aux dégâts en versant cette somme à la fédération. Celle-ci va être versée aux agriculteurs. Donc le chevreuil, c'est 20 euros, et le cerf, c'est 160, la biche, c'est 130, je crois, et le faon, 90 euros de mémoire. Et puis il faut que ça reste un plaisir. Faut pas, à la fin de la soirée, si on a un tableau de chasse raisonnable, on a fait l'ouverture il y a 15 jours, on a fait un cerf, un chevreuil. C'était formidable. On était absolument très contents de notre journée de chasse. Donc on a encore une dizaine de chevreuils à faire, trois cervidés.
À faire pour la saison, enfin,
pour la saison de chasse, pour la saison jusqu'au 28 février. On a donc notre plan de chasse, et puis dès qu'un animal est tiré, qu'on est assuré qu'il est bien mort, on sonne la mort de l'animal, tout le monde est au courant, parce que quand on arrive en fin de battue, il vous reste un animal à faire, et il ne faut pas en faire plusieurs, et donc il ne faut pas qu'il y ait d'erreur. Donc le principe, c'est que tout le monde soit informé au moment même du tir, ce qui a été tiré d'abord, la reconnaissance de l'animal, donc c'est des coups de trompe, chevreuil 2 coups de trompe, sanglier 3 coups de trompe, pour annoncer que c'est un sanglier qui est passé à la ligne et que vous avez tué. Les chasseurs, généralement, quand ils tirent des sangliers, on l'appelle la bête noire. Les bêtes noires, c'est les sangliers qui sont un peu âgés, ils sont tout noirs. Sanglier, les chasseurs n'ont pas de grand cas de conscience. En revanche, un chevreuil, c'est plus petit, ça fait penser à Bambi. Bon. Et la biche, quand on doit prélever des biches, on a des fœtus qui sont qui sont un peu choquants. Quoi. Le but, c'est de prélever, d'éliminer une biche avec un petit, ça fait deux animaux de moins sur le massif à la fin de l'année. On n'a pas le choix. Si vous laissez progresser, se développer toutes ces espèces, on va être submergé. Le problème, il est là. Pas supportable. Pas supportable. Donc, on ne peut pas faire de sentiments. Enfin, moi, j'en fais pas.
On avance dans les bois, je guette, j'ai peur, l'angoisse monte. Je visualise la biche bondir, le sanglier fuir. Mon rythme cardiaque s'accélère. Jamais je n'ai tué un animal de mes mains. Mais combien en ai-je mangé? Je leur demande pardon, tellement pardon. Je regarde l'homme à mes côtés, sa moustache grise, il y a beaucoup de douceur sur son visage. Je me demande si Jacques éprouve de la culpabilité, s'il aime les animaux. Est-ce qu'il ressent du plaisir à leur ôter la vie? Est-ce qu'il ferme les yeux, comme moi avant? Non, bien sûr que non. Pour bien viser, pour bien tuer, il faut ouvrir grand les yeux.
Et vous me parliez de la notion de plaisir, que la chasse doit rester un plaisir. Est-ce que vous pouvez m'expliquer?
Oui, parce que les chasseurs, s'ils sont là, ils ont un plaisir pour le groupe, parce que c'est un groupe d'amis, c'est un groupe qui partage les mêmes valeurs, la même ambiance, où on vient en silence se poster, on écoute. Alors c'est un partage d'émotions, partage d'écoute, et puis l'arrivée du meneur de chien, le lâcher des chiens, le lever de l'animal, et on écoute, on se dit, tiens, avec tel récri de chien, ça peut être plus un chevreuil qu'un cervidé, ou c'est un sanglier, puis si le traqueur, l'homme qui mène les chiens, a vu l'animal, il annonce par trois coups de trompe que c'est un sanglier, ou deux coups de trompe un chevreuil, ou une biche cinq coups, et donc on sait à quel animal on a affaire. Donc l'animal est lancé, s'il fait partie du plan de chasse du matin, on sait que celui-là, on va pouvoir le tirer. Donc l'excitation monte, parce qu'il va arriver peut-être à votre poste et que vous allez avoir les bonnes conditions pour essayer de le prélever, de tuer. Le plus noble des animaux en forêt, c'est le cerf. Et donc il y a une graduation. Un beau brocard, bien armé avec de beaux bois. Bon, ça c'est le trophée, comme d'ailleurs le cerf. Il y a derrière un trophée. On recherche aussi parfois, et certains, le très beau trophée. Parce qu'on conserve, c'est ce que vous avez vu dans le rendez-vous. Vous avez vu les bois qui sont exposés. Bon, c'est ce qu'on appelle les trophées. quand le cerf il vient à vous, qu'il a décidé de passer, c'est que vous avez été le plus discret possible, vous êtes le mieux confondu avec la nature, vous avez suspendu votre respiration. Et là, il arrive à votre hauteur, il décide de passer, et là il faut se relever, pointer son arme, oser appuyer sur la détente. Il y a beaucoup d'émotions. Est-ce qu'on est capable c'est toute la difficulté de les chasseurs. Il y a tellement d'émotions que on est maladroit parfois. On est maladroit dans son tir, on est maladroit dans l'épaulement, on est maladroit dans le suivi, dans le placement. Et donc on rate l'animal. Et on rate l'animal. Il y a des chasseurs qui réussissent 8 fois sur 10 et puis d'autres qui réussissent 2 fois sur 10. Mais quand vous avez prélevé votre animal, vous allez vous vérifier qu'il est bien mort, parce que ça peut arriver, il est blessé. Bien là, on a un code, nous, on a instauré un code où on sonne 2 coups très longs et ça fige le tir sur la ligne, ça veut dire que plus personne ne tire. Le temps d'aller servir, c'est-à-dire achever l'animal.
Servir, ça veut dire achever l'animal.
Oui, c'est servir, c'est tuer. Donc on a tous une dague, et là, on dague l'animal. On les dague au cœur, et puis on les dague.
Vous ressentez quoi, vous, à ce moment-là, par exemple, quand...
J'ai le cœur qui bat. On tue donc. C'est pas toujours très très facile. Un animal bien tué, c'est l'animal qui s'effondre avec une balle fatale. Ça, c'est parfait. Donc, le boulot est bien fait. Blesser un animal, c'est jamais réjouissant. Mais en revanche, aller l'achever, ça fait partie du job. Il faut pas laisser s'ouvrir les animaux. Donc, non. Il faut... on va faire de la tapisserie, quoi. On peut pas... On n'est pas... dénué de sentiments. On a du respect, d'abord, avant tout, pour ces animaux. On les respecte, bien sûr. On en voit parfois régulièrement qu'on finit par les reconnaître, et quand on le voit, c'est pas anodin.
Non.
Vous comprenez ?
Bien sûr.
La chasse, tuer, c'est du sérieux.
Jacques aime sa forêt, les animaux en font partie. Il m'apprend le vocabulaire du chasseur. Les mots adoucissent la réalité. Servir, pour ne pas dire tuer. Les mots qui disent tout va bien, tu peux garder les yeux fermés. Les mots qui arrangeaient celle que j'étais. Il y a 4 ans, je mangeais de la viande. Je l'aimais saignante, presque bleue. J'allais chez McDo. J'adorais l'odeur du poulet rôti, le jus de viande sur les pommes de terre. Quand je croisais une vache, je la trouvais adorable. Je ne faisais pas le lien avec l'entrecôte dans mon assiette. Je refusais de m'abonner à L214, de regarder les images d'abattoirs. Je fermais les yeux, parce que la fille que j'étais n'arrivait pas à faire autrement. J'avais cette petite voix dans mon ventre, qui me murmurait que ce n'était pas moi, que quelque chose n'allait pas. Je n'étais pas au clair avec moi-même. Je crois que j'avais trop de douleur en moi, que je ne me sentais pas prête à en accueillir d'autres.
Et quand vous dites, à chaque fois vous dites certaines émotions, une émotion, et vous arrivez à la définir, à être au plus près de ce que c'est comme émotion? Parce que c'est ôter la vie.
Je sais pas, je me suis jamais interrogé. Mais c'est un cadeau de la nature. Oui, c'est les bienfaits que procure la forêt. C'est le bienfait de la sensation, de respiration, de bien-être et tout. Et quand vous mangez un de ces fruits, que ce soit une châtaigne, un champignon, un filet de chevreuil, oui.
Mais non, c'est comme ça que vous le ressentez. C'est un cadeau.
C'est un cadeau. Oui. Tout compte fait, c'est un cadeau. Oui. Ah oui, c'est certain, c'est un cadeau. Mais c'est pas. Mais on vous l'offre pas. On vous l'offre pas. C'est vous qui avez fait le. Qui avez produit cet acte. Tiens, je crois bien qu'il y a un animal qui est passé là.
Ah oui.
Oui, au bout de l'étang. Là.
Et ça vous fait quoi d'ailleurs de voir? Enfin, là, si on tombe sur un chevreuil, vous ressentez quoi?
Ah, moi, de la joie. Oui, voir des animaux me remplit de joie.
Donc, vous les aimez?
Ah ben, évidemment. Moi, j'aime tout le contexte, là, toute la complexité, tout le contexte de la forêt, avec tout son ensemble, les oiseaux, les feuilles mortes, les glands, tout ça fait partie de ma joie, de mon bonheur. Si c'est bien fait, si c'est pratiqué avec une vraie éthique, un vrai esprit de chasse dans le respect des animaux, bon, à la fin, quand l'animal est prélevé, on a un petit rituel de salutation, de petits brins de pain pour accompagner son dernier voyage qu'on lui met dans la gueule. On salue le chasseur, bon, tradition allemande peut-être, mais on a... Enfin, mon groupe de chasseurs, il a une éthique. Il se veut avoir une éthique de chasse. Alors, on a un certain respect pour l'animal.
Pendant 2 heures, je me balade dans ces bois. J'entends les oiseaux, les feuilles recouvrent le ciel et deviennent le ciel. Il fait un temps magnifique. Je ressens toute la beauté autour de moi, un moment hors du temps. J'aimerais croiser le regard d'un animal et lui promettre que tout ira bien. Nous n'avons croisé aucun animal. Je n'ai pas eu à mentir. Une déception teintée de soulagement. Je remercie Jacques pour son honnêteté. Grâce à lui, j'ai compris ce que peut ressentir un chasseur quand il tue. Cette relation ambiguë qui le lie à l'animal, à la nature. Il n'est pas parvenu à me faire changer d'avis. Je n'éprouverai jamais de plaisir à traquer un cerf, à manger sa viande. Je serai toujours du côté de l'animal. Mais l'homme sensible qui s'est confié à moi m'a touchée. Nous disons au revoir, dans la maison de chasse. Je jette un dernier coup d'œil au trophée accroché au mur. Je croise le regard d'un sanglier empaillé et je lui murmure « désolé ». Sur le chemin du retour, j'entends à nouveau Jacques me dire qu'il aime les animaux, en boucle, dans ma tête. Puis le coup de fusil, bang! Je repense à ce film de mon enfance, avec un petit garçon et une oie. Ils devenaient amis, ils s'aimaient fort. À la fin, le petit garçon étouffait l'oie sous son oreiller, en chantant « Tout va très bien, tout va très bien, nous sommes heureux, nous sommes heureux. » Ça m'a marqué. Quand je pense à celle que j'étais, à mon ancien rapport aux animaux, c'est moi qui étouffe l'oie et qui chante « Tout va très bien. » Tout va très bien. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Je décide de continuer mon chemin avec Brigitte Gauthier, fondatrice d'AL214, et le député Aymeric Caron, du Parti Révolution écologique pour le vivant. Deux personnes qui m'inspirent beaucoup de respect et qui seront présentes tout au long de ma traversée. J'ai réalisé que Brigitte avait elle aussi été cette jeune femme qui ferme les yeux, qui occulte la souffrance animale. Qu'Aymeric n'était pas né vegan, qu'il avait fallu du temps avant qu'il n'assume sa sensibilité et devienne acteur du monde animal. D'une certaine façon, je me suis sentie moins seule.
Moi, jusque mes 20 ans, si on me posait la question « Est-ce que tu es pour ou contre la chasse ?» Est-ce que tu es pour ou contre la corrida? Je suis à peu près persuadée que j'aurais dit « Oh bah non, quand même, ça fait souffrir les animaux. » Mais j'avais vraiment aucune réflexion autour des animaux qui sont mangés. Donc, jusqu'à mes 20 ans, la question des autres animaux était assez loin. J'ai fait la connaissance de Sébastien, qui est mon compagnon encore aujourd'hui, qui est aussi un des fondateurs de L214. Et lui, pour le coup, lui, il vient de la campagne. Il a passé toute son enfance dans la ferme de ses grands-parents. Son grand-père et sa grand-mère étaient éleveurs laitiers, avec une quinzaine de vaches. Ce grand-père était le seigneur AI du village, c'est-à-dire qu'il saignait l'ensemble des cochons pour tout le village. Et son autre grand-père a été boucher à un moment. Et il était aussi maquignon, c'est-à-dire qu'il achetait les veaux, d'ailleurs, du grand-père éleveur laitier, pour les revendre sur le marché. Et donc, moi, j'arrive dans cette famille. Mais on percute pas à ce moment-là. On mange de la viande, on en achète en supermarché et on en a qui nous vient de la famille. Et c'est en lisant une bande dessinée que Sébastien percute sur une des cases de la bande dessinée. Alors la bande dessinée retraçait la vie de Siddhartha, premier Bouddha. Et à un moment, il est à l'extérieur du monastère, mis à l'épreuve. Il fait froid, il y a de la neige, il skye. Vraiment, il est dans une situation très difficile, de souffrance assez intense. Et devant lui passent deux moines avec sur les épaules la carcasse d'un cochon. Et il dit « Oh, mais finalement, moi, ce que j'endure, c'est rien au regard de la souffrance qu'on inflige à d'autres. » Et là, il était en train de manger un morceau de lard d'un cochon auquel on a participé à la tuerie. Et il dit « Oh, mais c'est du cochon !» Tout à coup, ce cochon prenait sa propre vie, sa propre individualité, quelque chose de très très fort. Et on se rappelle plus ce qu'on s'est dit, mais ça a été la décision de ne plus manger aucun animal, ni viande, ni poisson. À ce moment-là, et le début d'un engagement.
D'aussi loin que remontent mes souvenirs, je me souviens que j'ai toujours considéré qu'il y avait une anomalie dans la manière de traiter les animaux qui nous entourent. Je ne comprenais pas pourquoi on tuait des animaux pour les manger, je ne comprenais pas pourquoi il y a des animaux qui étaient frappés, qui étaient abandonnés. C'est quelque chose qui me faisait profondément souffrir. Je ne supportais pas de voir un mauvais traitement exercé sur un chien, sur un chat, sur un cheval, sur un animal sauvage. Et à tel point que je devais demander autour de moi aux adultes, mais pourquoi on fait ça aux animaux? Pourquoi on les élève pour les manger? Et on me répondait, mais c'est normal, c'est la vie. C'est-à-dire qu'en gros, on m'expliquait que ma manière naturelle de voir le monde, elle ne correspondait pas aux normes sociales. Et ce qui fait que j'ai mangé de la viande. Moi, je suis né il y a plus de 50 ans, donc manger de la viande, c'était quelque chose qui était absolument normal, naturel, et les végétariens étaient encore considérés comme des gens un peu bizarres. Et il y a quand même une scène où on partait en vacances à la ferme, où je vais donc à la ferme le soir chercher du lait, dans les Vosges. Et ce jour-là, il y avait des petits agneaux qui venaient de naître, et puis donc, c'était trop mignon, évidemment. Donc je demande au fermier, oh là là, ils sont super ces agneaux, alors du coup, qu'est-ce que vous allez en faire? Et puis il me répond, et c'est vraiment une phrase qui m'a marqué, il fait, bah, les manger, bien sûr. Et le dimanche, j'allais chez ma grand-mère manger de l'agneau. Je ne sais pas pourquoi ma grand-mère faisait beaucoup d'agneaux. Donc, tout à coup, j'avais devant moi le lien direct entre ce que je mangeais le dimanche chez ma grand-mère, le gigot d'agneau, et puis ces animaux, qui pour moi étaient semblables à mon chien et à mes chats. Pour moi, je ne faisais pas de différence. Donc à partir de ce jour-là, je n'ai plus mangé l'agneau dominical. Et puis j'ai commencé vraiment à m'interroger, j'avais une douzaine d'années environ, sur la manière dont moi je pouvais changer un peu mes comportements. Mais ça tout seul. Donc je commençais à me faire des raisonnements personnels. Donc je me suis dit, bon, déjà, c'est un agneau, c'est un bébé. Donc il ne faut pas manger de bébé. Bon, voilà, je commence comme ça. Ensuite, je me suis dit, tiens, il faut que je mange que des animaux gros. En me disant, est-ce que du coup, l'incidence de tuer l'animal est un peu moins grave si tu te dis que bah, tu peux nourrir, je sais pas, une centaine d'humains pendant je ne sais combien de temps, plutôt que si tu tues un petit oiseau qui ne te nourrira pas. Donc j'étais en train de réfléchir à ce que c'est un gros animal que je mange, pas un gros animal. Bon, bref, voilà, ça a accompagné mon alimentation jusqu'à l'âge de 20 ans. Et le fait de continuer à manger de la viande reposait encore sur une illusion. Et je me souviens très très bien, parce que je m'étais interrogé aussi là-dessus, je disais, mais les animaux, comment ça se passe pour les tuer, tout ça. Et on me disait, bah, ils vont dans un abattoir, je suis, oh là là, ça doit être vachement dur. Et on me disait, non, t'inquiète, aujourd'hui, un animal qui va à l'abattoir, il est tué très proprement. Et on me disait, vraiment, ça m'a vraiment fait le roman de l'élevage et de l'abattage. On disait, non, mais t'inquiète, tu sais, les animaux, ils ont une belle vie avant de mourir. Donc, ils ont une belle vie, puis à un moment, quand leur temps est venu, ils vont à l'abattoir, ils sentent rien, etc. Ça, c'est ce qu'on me racontait enfant. Je ne suis plus revenu sur le sujet juste pendant mon adolescence, parce que comme beaucoup de gens, ça m'arrangeait bien en plus d'être sur cette illusion.
La femme que j'étais ne voulait pas voir la réalité. Elle disait aimer les animaux, mais elle les mangeait. Tous les jours, elle les mangeait. Elle ne voyait pas son steak tartare comme un animal mort, mais comme un moment chouette à la terrasse d'un bistrot. Elle désirait le bien-être animal, mais le rouge à lèvres, la crème hydratante qu'elle s'appliquait tous les jours, avait été testée sur les animaux. Elle occultait, hiérarchisait, jusqu'au déclic, au jour où j'ai relié l'animal à la viande dans mon assiette. Le point de départ a été un changement intérieur. J'ai décidé de me confronter à certains démons. J'ai décidé d'aller mieux, de faire autrement, de lâcher prise. La première conséquence a été d'arrêter de manger de la viande, pour pouvoir me regarder dans la glace. J'ai écouté la petite voix dans ma tête. Je me suis abonnée à L214, j'ai regardé les images, et là, le choc. Plus de retour en arrière possible. J'ai quitté la zone grise. J'ouvre les yeux, la lumière jaillit. Je marche vers elle. J'entends le tambour, le rythme cardiaque s'accélère à nouveau. Ce podcast, je l'espère, va m'aider à éclairer ma pensée, à continuer mon chemin vers les animaux. J'avance vers eux, le micro à la main, dans ma tête. Et je ne fermerai pas les yeux. Un grand merci à Jacques, Brigitte Gauthier, Aymeric Caron pour leur confiance. Anima, un podcast de Loulou Robert, réalisé par Vincent Deck.
Une création.
Blast.